Merci Pierre-Alain de nous avoir conduit la louange. Merci pour votre enthousiasme. C'est extraordinaire, une équipe comme ça, une église aussi enthousiaste. Il y a quelques semaines, j'ai été interpellé par un texte de Jérémie où Jérémie utilise une image pour expliquer une vérité biblique. Et je dois vous confesser quelque chose, j'adore les images. Alors quand je dis ça, je ne parle pas des images taillées, mais j'aime bien les images, j'aime bien les illustrations, parce que je pense que ça nous reste beaucoup plus. Et c'est aussi pour ça que la Bible utilise des images, que Jésus aussi utilise des images. J'ai bien aimé ce texte, un texte de Jérémie, parce qu'il nous fait réfléchir au sens de notre vie. Pourquoi nous sommes là? Quel est le sens de notre vie? Quel est le but de notre vie? Et j'avais à cœur de réfléchir avec vous à ce texte ce matin. J'ai puisé une partie des idées de ce matin sur un site que je ne connaissais pas, qui s'appelle Bible pour l'Europe. Et voilà, je vais partager une partie de ces idées avec vous. Jérémie, vous le savez certainement, c'était un prophète de l'Ancien Testament. Il a exercé son ministère donc dans l'Ancienne Alliance, à l'époque des rois d'Israël, après la séparation du royaume en deux, avec le royaume d'Israël au nord, le royaume de Juda au sud. Et il a exercé son ministère peu avant la déportation à Babylone. On va lire donc un texte dans Jérémie, et je vous invite à lire dans Jérémie au chapitre 18, les 10 premiers versets. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi et descends à la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour, mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël ?» déclare l'Éternel. « Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. Parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, de démolir et de détruire. Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'ai prévu de lui faire. » Et parfois je parle... Est-ce que je dois avancer ? Non, c'est tout. Ah merci, c'est sympa, ouais. Et parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, de construire et de planter, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais l'intention de lui faire. Ce texte nous interpelle, nous comprenons assez facilement de qui il parle, mais on se dit, est-ce qu'on est concerné par ce texte ? Donc dans un premier temps, essayons de comprendre de qui ce texte parle. Ben, ça nous semble assez simple. Hein. Dieu est le potier et Israël, le peuple d'Israël, est le vase d'argile que Dieu essaye de façonner. L'image de ce texte illustre la souveraineté de Dieu. Dieu qui essaye de faire quelque chose de beau avec son peuple, qui essaye de faire un beau vase, mais parfois ça ne réussit pas. Parce que le peuple est rebelle et que Dieu n'arrive pas à faire un beau vase avec ce peuple. Et donc Dieu doit recommencer son ouvrage, doit recommencer un nouveau vase. Alors vous me direz, mais c'est super intéressant, mais en quoi est-ce que ça nous concerne nous, aujourd'hui, nous les chrétiens du 21e siècle? La réponse à cette question, est-ce que ça nous concerne vraiment? On ne la trouve pas dans Jérémie, mais on la trouve dans Romains. Parce que dans Romains, Paul explique que la bénédiction que Dieu avait initialement prévue pour son peuple, comme son peuple était récalcitrant, Dieu a reporté cette bénédiction sur les croyants, sur nous, sur tous les croyants des générations à venir. Et Paul, pour expliquer ça, reprend l'image du potier, et on va lire dans Romains, au chapitre 9, les versets 21 à 24, « Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable ? Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition ? Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire ? Ainsi, Il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs. Donc dans ce texte, Paul montre que Dieu a eu beaucoup de patience avec son peuple, parce qu'il voulait faire un beau vase avec son peuple, il voulait faire un vase utile. Dieu a supporté avec une grande patience des vases de colère, mais que Dieu a fini par se lasser devant l'incrédulité, la désobéissance de son peuple, et que Dieu a choisi des nouveaux vases, a choisi de faire des nouveaux vases avec les croyants. On a lu au verset 8, « Il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion. Là, nous sommes enfin concernés. Il a voulu faire de nous des vases de compassion. » Parce qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait avec le peuple d'Israël, il s'est tourné vers les nations pour faire des vases de compassion. Et Paul précise encore, ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs. Donc nous sommes ces nouveaux vases dans la main de Dieu. À la place du peuple d'Israël, nous sommes les nouveaux vases dans la main de Dieu. Alors vous me direz, bah, très bien, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie être un vase dans la main de Dieu? Et c'est ce que nous allons voir dans un deuxième point, pourquoi est-ce que Dieu nous crée comme des vases? Pourquoi est-ce que Dieu nous crée comme des vases et pas comme des mains? Une main, c'est pratique, ça peut agir, ça peut démontrer la puissance de Dieu ou la puissance de l'Évangile. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous crée pas comme des langues? Une langue, c'est pratique, ça peut parler, ça peut annoncer l'Évangile. Pourquoi est-ce que Dieu nous parle ici de nous avoir créés comme des vases? Pour comprendre ce choix, Dieu nous a créés comme des vases, je pense que c'est important de revenir à la création. Parce que l'idée de vase, l'idée de terre, être façonné à partir de la terre, elle date de la création. Et si on lit cela dans Genèse, au chapitre 2, verset 7, on voit que l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Dieu nous a façonnés à partir de terre. Je ne sais pas pour toi et moi, j'aurais préféré être façonné à partir d'or ou de diamant, ça aurait été plus sympa, mais Dieu a choisi de nous façonner à partir de terre, à partir d'argile. Et plusieurs textes de la Bible soulignent bien que Dieu nous façonne comme de l'argile. Par exemple, dans Ésaïe, on lit au chapitre 64, verset 7, « Cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » Alors la prochaine étape de notre parcours, ça va être de comprendre à quoi sert un vase. Quelle est la fonction principale d'un vase? Pourquoi nous sommes créés comme des vases? Si on se demande à quoi sert un vase, on comprend assez vite que ce n'est pas juste pour de la décoration. On ne parle pas de potiche ou de vase Ming, mais on parle bien d'un vase en terre. Un vase en terre, à la base, il est créé pour contenir quelque chose, pour contenir un liquide. Quand Dieu nous parle de vase, c'est pour contenir quelque chose. Et là, je crois qu'on arrive à la question centrale, c'est quoi? Qu'est-ce que nous sommes destinés à contenir? Quoi? Qu'est-ce que tu es destiné à contenir? Qu'est-ce que je suis destiné à contenir? Qu'est-ce qui remplit nos vies finalement? Qu'est-ce qui remplit nos vies? Qu'est-ce qui remplit le plus ma vie en ce moment? Qu'est-ce qui remplit le plus ta vie en ce moment? Est-ce que c'est un projet de partir en avion en vacances? Nous, on a la chance de partir dans 2 semaines en vacances, on se réjouit beaucoup et ça nous occupe. Est-ce que c'est le travail qui te préoccupe en ce moment? Demain, le travail qui recommence le lundi? Est-ce que c'est les finances? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'Église? Qu'est-ce qui t'occupe le plus en ce moment? Qu'est-ce qui nous préoccupe en ce moment? Mais qu'est-ce que nous sommes appelés à contenir? Qu'est-ce que Dieu nous appelle à vraiment contenir, à remplir dans nos vies? En fait, on a déjà un petit peu répondu à la question. La réponse, elle se trouve dans Romains. Est-ce que vous avez relevé ça dans Romains? On est passé assez vite dessus. La réponse, elle était dans Romains. On va relire le verset 23 de Romains 9. « Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion, nous, qu'il a d'avance préparés pour la gloire ?» La gloire de Dieu. Voilà ce que nous sommes destinés à contenir. La gloire de Dieu. Enfin, je ne vous vois pas tellement réagir, mais moi je trouve que c'est waouh, c'est incroyable. On est destiné à contenir la gloire de Dieu. On a chanté la gloire de Dieu, on a loué la gloire de Dieu, on est destiné à contenir la gloire de Dieu. Comme croyants, nous sommes des vases façonnés avec amour pour Dieu, par Dieu, pour contenir sa gloire. Moi, je trouve que c'est complètement incroyable. Enfin, j'ai l'impression d'en être à peine conscient. Comme croyants, on sait bien que Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous, qu'il est mort pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous apporter la vie, pour nous apporter une vie d'abondance. Tout ça, on le sait. Est-ce qu'on est conscient qu'on est aussi destiné à contenir la gloire de Dieu? Tu es destiné à contenir la gloire de Dieu. Waouh! Alors, dans un dernier point, j'aurais dû vous montrer ça avant, hein, et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Dans un dernier point, on va se poser la question toute pratique, est-ce qu'on a un rôle à jouer dans ce processus? On a vu que Dieu est le potier, on a vu qu'il a créé, il essaye de créer un beau vase pour contenir toute sa gloire, est-ce que nous avons un rôle à jouer dans ce processus? Est-ce que nous avons quelque chose à faire, que Dieu nous demande de faire, pour pouvoir contenir sa gloire? Est-ce qu'on a quelque chose à faire là-dedans? Comme vase d'argile, on pourrait avoir l'impression qu'on n'a rien à faire, du style, c'est Dieu qui fait tout, c'est lui le potier, il fait tout, moi j'ai rien à faire, je suis là, je suis passif, je ne fais rien. Je crois que cette image du potier qui façonne un vase, elle n'est pas là pour nous apprendre la passivité, elle n'est pas là pour nous apprendre que nous n'avons rien à faire dans ce processus, que Dieu fait tout, que nous n'avons rien à faire. Je crois que cette image est là pour nous apprendre la malléabilité, pour nous apprendre que nous pouvons être façonnés par Dieu, que nous pouvons aider Dieu à bien réussir son ouvrage. Comme si Dieu voulait nous dire, ou comme si nous pouvions répondre, « Seigneur, j'ai envie que tu travailles en moi. J'ai envie que tu façonnes quelque chose de beau, quelque chose qui arrive à vraiment bien contenir ta gloire. » Est-ce que nous pouvons aider Dieu dans ce processus? Comment est-ce que nous pouvons participer à cela, puis aider Dieu à embellir nos vases pour qu'ils soient toujours plus beaux, plus aptes à recevoir toute la gloire de Dieu? Je vois deux pistes qui peuvent nous aider. J'aimerais terminer par cela. Une première piste, c'est l'obéissance. Un premier élément que nous avons pour aider Dieu à remplir sa mission, de nous remplir de sa gloire, c'est l'obéissance. Et Jérémie, vous avez remarqué, il écrit au peuple, à un peuple récalcitrant, pour inciter le peuple à obéir, à revenir en arrière, à se détourner de ses fautes, à changer son comportement. Et on a lu dans Jérémie 18, le verset 8, « Si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. » Ce texte nous exhorte à renoncer au mal et à choisir de suivre Dieu. Chaque fois que nous choisissons de suivre Dieu plutôt que suivre nos penchants naturels, nous embellissons notre vase et nous rendons la gloire de Dieu plus visible pour ceux qui nous entourent. J'aimerais illustrer ça avec un exemple de la vie professionnelle. Parfois, mon patron m'énerve. Alors vous me direz, c'est pas très grave puisque dans 3 mois je m'arrête, hein, définitivement. Mais quand même, des fois il m'énerve et parfois, souvent même, je médis dans son dos. J'en parle à mes collègues. Au lieu de lui en parler à lui, j'en parle à mes collègues. Et ça, je crois que ça enlaidit mon vase. Ça enlaidit mon vase. Ça empêche la gloire de Dieu d'être visible. Et parfois, un peu rarement, je me retiens. Et je crois que chaque fois que je me retiens, ça embellit mon vase. Et ça permet aux autres de mieux voir qui est Dieu, de mieux voir sa gloire. Est-ce qu'il y a un domaine où nous devons encore progresser dans ce domaine, dans l'obéissance? Est-ce qu'il y a un domaine où toi, tu dois aussi progresser dans l'obéissance à Dieu pour que la gloire de Dieu soit toujours plus visible dans ton entourage? Quand nous obéissons au Seigneur, nous rendons sa gloire visible pour ceux qui nous entourent. Ça, c'est un point qui me semble primordial. Alors évidemment, c'est facile de dire, on doit obéir au Seigneur, mais comment y arriver? C'est facile de le dire, et puis dans la vie de tous les jours, on a tellement de peine à y arriver. Et j'aime bien regarder à l'exemple de Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre pendant son ministère. Qu'est-ce qu'il a fait? il a toujours essayé de faire la volonté de son Père. On lit par exemple dans Jean, au chapitre 6, verset 38, « En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Jésus a cherché à faire la volonté de son Père, et parce qu'il a cherché à faire la volonté de son Père, la gloire de Dieu, du Père, était visible pour son entourage. On voit que les foules autour étaient émerveillées par ce qu'il faisait. Par exemple, dans Luc, chapitre 7, verset 16, « Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Eh bien, que le Seigneur nous aide à chercher en Jésus-Christ la force de faire sa volonté, de lui obéir pour que sa gloire soit visible autour de nous. Et puis un deuxième moyen, il me semble que nous avons de rendre, d'embellir notre vase, et je vais terminer par cela, c'est la communion avec Dieu. Un vase a toujours une ouverture, et l'ouverture peut être bouchée et empêcher le liquide de rentrer dans le vase. Qu'est-ce qui empêche la gloire de Dieu d'entrer dans ma vie? Qu'est-ce qui empêche la gloire de Dieu d'entrer dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses qui bouchent notre vase et qui empêchent la gloire de Dieu d'entrer? Est-ce que notre ouverture de vase, est-ce qu'elle est libre? Est-ce que nous sommes ouverts à l'action de Dieu en nous? Je crois que chaque fois que nous prenons du temps pour aller dans la présence de Dieu, pour être à son écoute, pour prendre du temps dans la communion avec lui, je crois que chaque fois c'est un moyen de déboucher notre vase, de laisser Dieu pouvoir entrer en nous avec sa gloire. J'aimerais aussi illustrer ça avec un exemple. En mai, on a vécu un superbe week-end d'église. Je crois que tous les participants sont complètement enthousiastes. C'était extraordinaire le week-end qu'on a vécu en mai. Ceux qui n'y étaient pas, il faudra revenir l'année prochaine. On est en train d'en organiser un pour l'année prochaine. Pourquoi est-ce que ce week-end était extraordinaire? Est-ce que c'était le château de Jude? C'est vrai que c'était un beau château. Est-ce que c'était la météo? Est-ce que c'était les bons repas? Est-ce que c'était même les autres participants? Pourquoi ce week-end était si extraordinaire? Moi, je crois que ce week-end était si extraordinaire parce qu'on a touché à quelque chose de différent. On a pu vivre la présence de Dieu d'une manière différente. On a vécu dans l'intimité du Seigneur pendant 48 heures ou un peu moins. Et c'était absolument extraordinaire d'avoir pu être dans l'intimité du Seigneur, d'avoir pu goûter son intimité. Moi, ça me manque dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous arrivez à revivre cela dans la vie de tous les jours? Et là aussi, je me dis, mais comment arriver à vivre des vrais tête-à-tête avec le Seigneur dans la vie de tous les jours, malgré le travail, la famille, le stress, la santé, tout ce qui peut nous accabler? Comment vivre des vrais tête-à-tête dans la vie de tous les jours? Et là, je vous propose aussi de regarder à l'exemple de Jésus-Christ, qui, lorsqu'il était sur terre pendant son ministère, a toujours réussi à trouver du temps pour être dans l'intimité de son Père. Combien de fois on lit qu'il s'est mis à l'écart, qu'il était à l'écart, et qu'il a pu prier son Père, et que c'est là qu'il a reçu un renouveau, un encouragement, et que la gloire de Dieu est devenue visible en lui. Si Jésus-Christ a réussi à le faire dans son ministère, je crois que nous pouvons aussi le faire avec sa force. Je vais te poser une question indiscrète et pas facile, mais à quand remonte ton dernier vrai tête-à-tête avec le Seigneur? À quand remonte ton dernier vrai tête-à-tête avec le Seigneur? Est-ce que c'était il y a quelques jours? Gloire à Dieu! Est-ce que c'était il y a quelques semaines? Est-ce que c'était il y a quelques mois? Je crois que le Seigneur, il veut des vrais tête-à-tête avec toi, avec moi. Le Seigneur veut des vrais tête-à-tête avec toi et avec moi. Le Seigneur souhaite des temps où il peut nous remplir de sa présence, nous remplir de sa gloire, nous redonner des forces et des encouragements et de l'enthousiasme. Alors soyons aussi encouragés à prendre du temps, peut-être cette semaine, pour vivre un vrai tête-à-tête avec le Seigneur. Ben, nous arrivons à la fin. Qu'est-ce qu'on a envie de retenir? Jérémie nous rappelle que Dieu nous a créés et que Dieu cherche hein, toujours plus à nous former comme des beaux vases, des vases parfaits, des vases aptes à recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Paul nous rappelle que nous sommes ces nouveaux vases que Dieu a créés et que Dieu nous a créés pour recevoir sa gloire. Même si ça nous semble incroyable, nous sommes créés pour recevoir la gloire de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons rendre cette gloire visible au monde extérieur. Parmi nos voisins, nos amis, nos connaissances, nos collègues de travail, nous pouvons rendre un tout petit peu visible cette gloire de Dieu. Nous pouvons y contribuer à rendre cette gloire visible. D'une part, par l'obéissance à sa parole, au conseil, à toutes les directives que Dieu nous donne. Et nous pouvons aussi rendre cette gloire plus visible par notre communion avec Dieu, quand nous nous ressourçons auprès du Seigneur dans des vrais tête-à-tête. Alors c'est ma prière que la gloire de Dieu puisse nous inonder et puisse être visible pour ceux qui nous entourent. Soyez tous bénis. Amen.